Des pistes inédites pour lutter contre les douleurs chroniques sont publiées aujourd'hui dans The Journal of Clinical Investigation. Il s'agit du résultat de recherches menées en Suisse par le laboratoire d'antalgie du CHUV Université de Lausanne, l'Université de Berne et le PFL. Les scientifiques ont réussi à identifier un nouveau mécanisme qui provoque une dérégulation responsable justement de ces douleurs chroniques, Antoine Drou.
Oui, qu'elle s'appelle hernie discale, la névralgie du trijumeau, qu'elle s'appelle zona, qu'elle soit liée au diabète ou aux chimiothérapies, elles empoisonnent la vie de 7% de la population suisse. Pour les douleurs chroniques modérées à sévères, c'est même jusqu'à 20% de cette population. Elles, ce sont les douleurs chroniques ou neuropathiques, des douleurs tenaces qui résistent au traitement dans la moitié des cas.
Voilà, ces douleurs-là, on est bien d'accord, il ne s'agit pas du signal douleur habituel.
Non, on n'est pas ici dans une douleur normale, une douleur nécessaire pour protéger l'organisme ou éviter les dangers. On est dans une altération du système nerveux, une altération qui provoque l'envoi d'informations erronées au cerveau. Le système nerveux est dans un mode anormal d'hyper-excitabilité, d'hypersensibilité. Il y a trop de courants électriques qui circulent. Le patient souffre alors que son corps est pourtant guéri.
Et où est l'avancée dans l'étude publiée aujourd'hui ?
Eh bien, elle est dans la manière d'aborder ces douleurs chroniques. Aujourd'hui, un des traitements consiste à boucher les canaux sodiques. Ce sont les tuyaux qui transmettent les ions, le courant électrique responsable de la douleur. Oui. L'approche des chercheurs du Centre antalgique CHUV Université de Lausanne, de l'Université de Berne et de l'EPFL est différente puisqu'ils se sont intéressés aux tuyaux eux-mêmes. Ils ont mis en évidence une molécule baptisée ubiquitine ligase NET4-2. NET4-2, hein, ce sera plus simple pour la suite du sujet. Une protéine, un enzyme qui existe par défaut dans l'organisme. Cette molécule agit comme un frein et empêche l'accumulation des canaux dans le neurone qui transmet l'information douleur.
Alors on va en parler plus en détail de cette molécule avec vous, Isabelle Descoster. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans CQFD. Vous avez dirigé cette recherche publiée aujourd'hui donc dans The Journal of Clinical Investigation. Vous êtes directrice du Centre d'antalgie CHUV Université de Lausanne, professeure associée à la faculté de biologie et de médecine. C'est vous qui avez fondé avec Marie Pertin il y a 12 ans le laboratoire où ces recherches ont eu lieu. Comment fonctionne cette molécule que votre équipe a mise en évidence dans dans ces douleurs chroniques, dans les douleurs neuropathiques? Cette petite molécule qu'on nommera par son petit nom NED4-2.
Alors NED4-2, c'est effectivement une molécule très intéressante qui est issue aussi du fruit d'une collaboration, comme vous l'avez noté, avec le professeur Abriel de l'Université de Berne et puis différentes autres personnes qui ont collaboré à ce travail, en particulier notre doctorant Cédric Lederman. Et il a démontré que dans des modèles expérimentaux de douleurs neuropathiques, eh bien cette molécule est complètement diminuée. Son taux d'expression, enfin, le nombre de molécules NET4-2 est diminué de 80%. Et donc, on a un frein à l'apparition des canaux ioniques à la surface du neurone qui, eux, transmettent l'excitabilité. Mmh. Ce frein est levé. Donc, il y a plus de canaux à la membrane, donc plus d'électricité générée.
Donc, on est bien d'accord, cette molécule NET4-2, elle agit sur ces canaux sodiques précisément.
Elle agit sur ces canaux sodiques précisément, elle peut agir sur d'autres types de canaux, mais en l'occurrence elle a un motif de reconnaissance très particulier pour les canaux sodiques et en particulier ceux qui conduisent l'information douleur.
Oui, vous avez travaillé sur une lignée de souris génétiquement modifiées, pouvez-vous nous décrire votre expérience, comment ça s'est passé ?
Alors, c'est des souris qu'on obtient par croisement. On a eu deux lignées de souris. Une où il y a une absence totale dans le corps des souris de NET4-2. Et puis, une autre lignée où on a un système de reconnaissance dans les neurones spécifiques douleur. Ces neurones qui sont hautement spécialisés. Et on a pu abolir NET4-2 dans ces neurones-là. Puis ensuite, enregistrer les courants électriques dans ces neurones qui étaient augmentés, puisqu'il il n'y avait plus de NET4-2. Et on a montré aussi que les signes de douleur que peuvent présenter les animaux sont augmentés quand il n'y a pas de NET4-2.
Alors, votre laboratoire du CHUV, Université de Lausanne, a mené l'expérience avec l'Université de Berne et les PFL. À chacun un angle très précis dans la recherche. Vous, c'était l'expertise sur le travail de la douleur. Qu'ont fait l'Université de Berne et les PFL ?
Alors, l'Université de Berne, mon collègue est un spécialiste des ce qu'on appelle les canélopathies, les maladies qui sont liées aux maladies plutôt génétiques des canaux ioniques, et avec une expertise aussi dans l'enregistrement de ces courants. Et c'est lui qui a co-dirigé la thèse de Cédric Lederman sur ces aspects de courants électriques. Et effectivement, nous, on a amené l'expertise douleur. Notre collègue aussi du département de pharmacologie et toxicologie, le docteur Kellenberger, a amené aussi sa spécificité dans des enregistrements électriques de ces neurones. Et les PFL, avec Bernard Schneider, nous a donné son expertise pour la thérapie génique, qui est l'expérience suivante de notre papier, où on a pu restaurer avec des petits vecteurs viraux qui forcent les neurones qui nous intéressent à refabriquer du NET4-2 quand il y a des signes de douleur neuropathique. Ouais,
ça pose pas un problème pour les autres canaux sodiques, ceux que l'on a par exemple dans la région du cœur ?
Non, puisqu'on a été spécifiquement injecté à proximité des neurones. Ça s'appelle la proximité du ganglion spinal. C'est des ganglions où il y a le corps cellulaire du neurone près de la moelle épinière. Et ça ne touche que ces neurones-là.
Alors l'idée, c'est donc de supprimer ces canaux, donc le signal de cette fausse douleur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'influencer également la vraie douleur, d'une certaine manière, la bonne douleur, celle qui nous est utile parce qu'elle permet à l'organisme de se protéger, c'est un avertissement?
Dans ce sens, on a plutôt rétabli un équilibre. Si vous voulez, le nombre de canaux et les courants électriques mesurés et aussi la sensibilité de l'animal étaient normaux quand on a restauré NET4-2. Par contre, quand on provoquait une lésion du nerf, à ce moment-là, on avait des courants qui se rétablissaient, qui revenaient vers la normalité. Donc, on était de nouveau dans un équilibre, mais qui n'empêchait pas le signal d'alarme et qui, par contre, atténuait à peu près de moitié les signes de douleur neuropathique.
Alors aujourd'hui, grâce à vos recherches, on en sait un peu plus sur le fonctionnement de ces douleurs neuropathiques. Enfin, on en sait même beaucoup plus sur le fonctionnement de ces douleurs neuropathiques. Est-ce que pour autant, on comprend mieux les causes de ces douleurs? Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent chez ce patient après une chimiothérapie et pas chez cet autre patient?
Ça, c'est une excellente question. On est tout à fait inégaux face à la douleur. Et on a tous, dans notre patrimoine génétique, des gènes qui peuvent être protecteurs ou facilitateurs par rapport à ça. Et l'environnement, le contexte psychosocial interviennent aussi là-dessus. On parle beaucoup d'épigénétique, de facteurs qui peuvent influencer comme ça, même d'une génération à une autre, une sensibilité à la douleur. C'est une des raisons, en tout cas c'est la raison qu'on propose dans le domaine de la recherche sur la douleur, pourquoi tout le monde ne fait pas des douleurs après une lésion d'un nerf.
Oui, mais on est d'accord, les patients qui sont atteints de cette pathologie souffrent vraiment, c'est donc vraiment pas une douleur fantôme comme après une amputation ou ce genre de choses.
Alors la douleur fantôme n'est pas non plus une fausse douleur, les patients souffrent vraiment. Nous au centre d'antalgie du CHUV, on est des anesthésistes, on a l'habitude de croire notre patient quand il nous dit qu'il a mal. Et ces douleurs, ce que j'ai un peu l'habitude de dire aux patients, ils viennent chez nous souvent très tard, malheureusement. Et ils nous disent, de toute façon, on nous dit que c'est toujours dans la tête. Mais c'est clair que c'est dans la tête, parce que sans cerveau, vous ne pourriez pas percevoir la sensation et l'émotion qui est la douleur. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer à nos patients.
Alors, quel espoir aujourd'hui sur le plan clinique, sur le plan thérapeutique et surtout à quel horizon?
Ça, c'est toujours la question que vous nous posez et qui est très difficile à répondre. Nous, on est 13 ans en amont. On fait de la recherche fondamentale.
Sur les petites souris, là.
Et puis, on découvre des mécanismes. C'est clair qu'il y a deux approches possibles. La thérapie génique existe dans des études de phase 2 dans le domaine de la douleur avec des vecteurs viraux différents des nôtres. C'est des études nord-américaines qui travaillent alors plutôt à une augmentation de la sécrétion de nos propres opiacés, si vous voulez, notre morphine à nous dans notre corps, il force des cellules proches de la moelle épinière à en fabriquer. Nous, on va plutôt rétablir un équilibre et cibler de façon spécifique un mécanisme. Ça, c'est la partie thérapie génique. Et puis, on peut imaginer aussi des traitements qui vont influencer sur le mécanisme de la diminution de NET4-2 lorsqu'il y a une lésion d'un nerf.
Avec quel horizon au niveau... Pardon, Antoine.
C'était la même question.
L'horizon, est-ce que je peux tirer en touche?
C'est
difficile à dire. Quand je vois ce qui se passe dans le domaine de la douleur, le développement de nouveaux médicaments, ça fait très longtemps par exemple qu'on parle des cannabinoïdes. Ils commencent à arriver sur le marché, mais les médicaments spécifiques ont certains récepteurs cannabinoïdes qui sont utiles dans la douleur et qui évitent tous les effets qu'on n'aime pas avec le cannabis. On les a toujours pas et ça fait à peu près 10-15 ans qu'on en parle.
Oui, mais si on a bien compris effectivement ces recherches, c'est aussi ce qui est très, très intéressant, c'est de changer de point de vue, de changer la manière dont on aborde ces douleurs chroniques suite à vos recherches et à l'effet que vous avez démontré de cette protéine.
Tout à fait, puis je crois que ce que nous, en tout cas, nous trouvons très intéressant, c'est de restaurer un équilibre ou de revenir à un autre équilibre qui ne génère pas cette hypersensibilité et en final des douleurs qui sont très handicapante pour les patients et qui agissent. Hein, malheureusement, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil font très bon ménage avec les douleurs neuropathiques. Et on espère pouvoir, déjà même en expliquant aux patients les choses, pouvoir les aider et les accompagner.
Invité par Antoine Droux ce matin, Isabelle Descosters, merci d'être venue en direct. Directrice du centre d'antalgie CHUV, Université Lausanne, professeure associée à la faculté de biologie et de médecine.